Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Pour notre 9e rendez-vous, j'ai choisi de vous parler d'un écrivain qui, à travers son œuvre, nous offre un plaidoyer constant pour la joie, la beauté et la vie. Cet auteur, c'est François Cheng, et je vous propose une mise en lumière de son premier roman, Le Dit de Tijani.
Récemment, quelqu'un m'a demandé, il dit maintenant, avec votre âge, vous avez atteint la sagesse, vous avez atteint la sérénité. Je dis pas du tout. D'abord parce que je ne cherche pas la sagesse.
Non.
Chez moi, c'est la passion. Et puis, je ne cherche pas la sérénité. Au contraire, il faut continuer à se laisser travailler par la souffrance du monde. Si on est l'écrivain, si on est digne de ce nom, il faut porter, dans la mesure du possible, toute la douleur du monde et essayer de les transformer, de les transfigurer en une sorte de lumière qui nous aide à vivre. Ça, c'est notre devoir.
C'est donc François Cheng que nous venons d'entendre alors qu'il était invité par François Bunel dans le cadre de son émission La Grande Librairie, diffusée en avril 2019 sur France 5. Et sans plus attendre, une mise en bouche pour démarrer avec le début du roman Le Dit de Tijani, plus précisément le début de la première partie, intitulée « Épopée du départ ». Au commencement, il y eut ce cri dans la nuit. Automne 1930. La Chine, avec ses 5000 ans d'histoire, et moi, avec presque 6 années de vie sur Terre, puisque j'étais née en janvier 1925. Mes parents venaient de m'emmener pour la première fois à la campagne, fuyant la ville de Nanchang, écrasée encore de chaleur et toute bruyante de scènes d'exécution capitale. Je me trouvais, avec ma petite sœur, dans la chambre où notre famille allait dormir, pendant que mes parents s'attardaient, malgré l'heure avancée, dans la chambre voisine pour parler avec la tante qui nous recevait. Nous étions en train de nous amuser avec les objets rustiques disposés à côté de l'unique grand lit, lorsque soudain, un long cri se fit entendre. D'abord plaintif, lointain, puis de plus en plus proche et strident, il finit par se muer en une sorte de mélopée à mots répétés, monotone, lancinante mais infiniment berçante. C'était une voix de femme, jaillie, aurait-on dit, de ses entrailles ou de celles de la terre, tant elle résonnait d'échos immémoriaux. Les mots devenaient distincts maintenant. « Âme errante, où es-tu? Où es-tu? Âme errante, viens ici! Viens ici! Âme errante !» Littéralement envoûtée par cette voix et ces mots, sans doute aussi pour tranquilliser ma sœur, muette de peur, je répondis d'une voix presque enjouée. « Oui, je viens. Oui, je viens. » Et à mesure que la voix du dehors enflait, je répondais plus fort. C'est alors que, dans un grand fracas, les grandes personnes firent éruption dans ma chambre. Ma tante d'abord, suivie de mes parents. Tous me crièrent « Tais-toi ! Tais-toi !» Puis, sans transition, « Couchez-vous maintenant, on vous croyait déjà au lit. Cet ordre, aussi brusque que brutal, donné sans explication et accompagné de leur mine défaite, provoqua un tel choc chez moi que j'en eus le souffle coupé. La bougie, une fois éteinte, dans le noir, je ne trouvais pas le sommeil. Je réussis à capter quelques paroles échangées entre les grandes personnes, à travers lesquelles je finis par saisir à peu près ce qui était en jeu. La femme qui criait venait de perdre son mari. Cette nuit, elle appelait l'âme errante du mort afin que celle-ci ne s'égarât pas. Selon le rituel, après avoir brûlé des papiers-monnaies destinés aux morts, au moment précis de la troisième veille, la veuve commence son appel. Si par hasard quelqu'un d'entre les vivants répond « oui » à cet appel, il perd son corps, dans lequel s'introduit l'âme errante du mort, lequel, du coup, réintègre le monde vivant. Tandis que l'âme de celui qui perd ainsi son corps devient errante à son tour. Elle erre jusqu'à ce qu'elle trouve un autre corps pour se réincarner. Peu après, j'entendis encore les grandes personnes qui se rassuraient. Mais une réponse innocente ne compte pas. Comment peuvent-ils être rassurés ? Me demandai-je. Et moi, je me voyais perdant mon corps, déjà mort. Sa situation sur l'étagère ? Eh bien, sur mon étagère, le dit de Tiani se trouve entre les livres de Sorge Chalandon et ceux d'Antoine Chauplin. Alors, si l'écriture et les thématiques abordées par Sorge Chalandon sont un peu éloignées, selon moi, de celles de François Tcheng, hormis peut-être la volonté de ces deux auteurs de faire se côtoyer l'intime et l'histoire, on peut dire que l'amour de la montagne pourrait bien réunir Antoine Chauplin et François Tcheng, plus précisément les Alpes pour le premier et le Mont Loup pour l'autre. Sans parler de la poésie et de la peinture qui sont présentes dans leurs deux univers. Mais si on demandait à François Tcheng de choisir ses voisins de bibliothèque, il citerait sans hésiter Rilke, qu'il admire pour cette poésie dite « de la voix intérieure ». Pour François Tcheng, la poésie, c'est une philosophie, et les vrais poètes sont des poètes de l'être. Dante, Hölderlin, Novalis, Lamartine, Hugo, Nerval, Baudelaire, jusqu'à Michaud et René Char. Il aurait aussi choisi comme compagnon de littérature Rimbaud, qu'il découvre à Paris grâce à un bouquiniste avec la Comédie de la soif. Les poètes chinois du groupe Juillet, nouvelle génération de poètes que François Tcheng évoque dans son anthologie de poètes chinois Entre cours et nuages, Wang Wei, poète chinois également, mais du 8e siècle de la dynastie des Tang et qui est adepte du bouddhisme contemplatif. On pourrait citer aussi les écrivains qu'il a découverts à l'âge de 15 ans, Tolstoï, Tchekhov, Dostoïevski, Jack London, Gide, Steinbeck, Romain Rolland et sûrement Proust. Proust, pour la recherche, également pour son propos. La vraie vie est une vie vécue repensée et recréée par l'écriture. La rencontre avec Proust a renforcé la confiance de François Tcheng dans l'écriture. Il dira qu'elle lui a permis de se réconcilier avec la vie et d'envisager la possibilité de recréer la vie considérée comme perdue. Poète, philosophe, romancier, traducteur et calligraphe, François Tcheng est né en Chine en 1929. Depuis 2002, il siège à l'Académie française, lui qui ne parlait pas un seul mot de français quand il est arrivé à Paris en 1948. Son œuvre est nourrie de sa double culture chinoise et française, de son amour de la nature et de sa spiritualité. Issu d'une famille de lettrés de la province de Shandong, il passe son enfance en Chine dans un contexte de guerres successives. En juillet 1937, le Japon déclare la guerre à la Chine et c'est la guerre civile qui lui succède à partir de 1946. Sa jeunesse se déroule donc sur fond de misère, de bombardements, d'exodes, de faim, d'épidémies de typhus et de choléra. Fuyant les bombardements, sa famille s'installe dans la campagne du Sichuan à Wuhan. C'est à cette période, à l'âge de 15 ans, qu'il consacre beaucoup de temps à la lecture et s'éveille à la littérature, éveil qu'il évoque d'ailleurs dans le roman Le Dit de Tiani. François Cheng arrive donc en France avec sa famille alors qu'il a à peine 20 ans. Son père obtient un poste à l'UNESCO pour 2 ans. François Cheng se lance dans des études de littérature française, mais le retour en Chine n'est plus possible, car le régime chinois ferme ses frontières. Alors que ses parents et ses frères choisissent les États-Unis, lui préfère rester en France. Il devient alors un exilé et côtoie la solitude et la misère. Son nom, mi-français, mi-chinois, est le reflet du partage de sa vie entre la France et la Chine. En 1971, il demande sa naturalisation et décide ainsi de changer de prénom. Il commence à écrire en français en 1977 et traduit en chinois Baudelaire, Rimbaud, Laforgue, Apollinaire, Breton, Éluard, Char et Michaud, devenu un ami. C'est par la poésie qu'il entrera en écriture et il sera publié en 1988. Son premier roman, Le Dit de Tiani, ne verra le jour qu'en 1998, mais nous y reviendrons. Dans ses œuvres majeures, notons en 2006 l'apparition de 5 méditations sur la beauté, un essai où il questionne notre rapport au mal et à la beauté. En face du mal, que signifie la phrase de Dostoïevski « La beauté sauvera le monde » Ces méditations sont construites comme des conversations avec le lecteur. Suivra ensuite, sur ce même principe, 5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, qui paraît en 2013. Malgré une apparence sereine, François Cheng se définit comme un écorché vif. Il n'y a pas de cuirasse, le monde pénètre en moi nuit et jour d'une façon parfois effrayante, même les moindres faits divers m'empêchent de dormir pendant des mois et des années. Si son œuvre compte peu de romans, il publie cependant une 20aine de recueils de poésie, plus d'une 30aine d'essais et des ouvrages sur la calligraphie chinoise. On peut mentionner dans ses ouvrages récents « Enfin le royaume », paru en 2018, un recueil à la gloire du quatrain et qui sonne comme un retour au quatrain, comme une épuration, un dépouillement de son écriture pour aller vers l'essentiel, l'irréductible. Pour lui, la langue française permet cette concision. Alors, citons pour illustrer ce recueil et la pensée de François Cheng, ces quelques vers. Nous rions, nous trinquons, en nous défilent les blessés, les meurtris. Nous leur devons mémoire et vie. Car vivre, c'est savoir que tout instant de vie est rayon d'or sur une mer de ténèbres. C'est savoir dire merci.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. You treat me like I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall. Hey, kitchen are things you held your breath. And the door for me, thanks for your patience. That I've ever met. You're my best friend, best friend with benefits. What took me so long? I've never felt this healthy before. I've never wanted something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. And don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. I could.
Le terme de roman est un peu réducteur pour définir le dit de Tiani. Confession, récit de vie serait plus approprié. Récit de vie au pluriel, car si la part autobiographique existe, l'histoire a pris corps avec les multiples témoignages que François Cheng a recueillis dans les années 80 de la part des exilés chinois qu'il a rencontrés à Paris. Comme le dit lui-même l'auteur, ce livre, c'est la prise en charge romanesque d'une multiplicité de destins sur deux générations. C'est ainsi que François Cheng a pu retracer notamment la vie dans les camps chinois et l'empreinte douloureuse des bouleversements que la Chine a connus au XXe siècle dans la vie quotidienne des Chinoises et des Chinois. Ce roman est donc le tissage de ces multiples destins mêlés à celui de François Cheng pour ce qui est du drame d'amour et d'amitié qu'il a vécu intimement et qui l'a inspiré. Au cours de ce livre, c'est la voix du peintre Tiani que nous entendons. Il s'agit d'une sorte de confession à la première personne du singulier et qui nous relate ses liens avec les deux êtres qu'il chérit le plus au monde, Yumei, l'amante, et Haolang, l'ami. Tout cela à travers le prisme des grands événements politiques qui ont secoué la Chine au cours du XXe siècle. La nature est prégnante dans ce roman, mais la poésie, la littérature, le théâtre, la peinture, la calligraphie et la spiritualité, avec le taoïsme, tissent également la toile de fond de ces pages. Récits que l'on pourrait aussi qualifier d'initiatiques, de romanesque qui célèbre l'amitié et l'amour par-delà la vie. Ce qui en fait une œuvre originale et majeure, car François Cheng a aussi l'art de mêler la petite histoire à la grande et celui de nous offrir tout à la fois la Chine qui porte en lui et son amour de l'Occident. Ce roman, écrit en français, a été publié en 1998 par Albin Michel et a été couronné la même année par le prix Femina. À Alors, si j'ai jusqu'à présent eu en mémoire la rencontre avec les livres que j'ai évoqués dans le millefeuille, je dois reconnaître que pour celui-ci, je ne suis pas sûre des circonstances de sa découverte. Je ne l'ai pas lu à sa sortie, je l'ai acheté en poche, je l'ai lu a priori en 2009, et sans doute que le bouche à oreille, le cercle des amis lecteurs, a fait son œuvre pour que ce livre arrive jusqu'à moi. Ce qui est certain, c'est que depuis sa lecture, j'ai continué à alimenter le bouche à oreille pour agrandir le cercle de ses lecteurs. Alors voilà pourquoi il a toute sa place dans ce millefeuille. Découvrons à présent un deuxième extrait du dit de Tiani, un extrait lu par Antoine. Tiani, accompagné de son ami Aolang, retrouve après un long périple Yumei, celle qu'il appelle l'amante et qui, pour l'heure, est devenue comédienne dans une troupe de théâtre.
Après avoir suivi un sentier, nous parvînmes à un petit lac entouré de roseaux et d'arbres. D'emblée, je reconnus en ce lieu l'autre coin de bois à côté du domaine familial de l'amante, où jadis elle et moi, nous avions passé des moments inoubliables. Pendant que Aolang se jetait à l'eau pour nager, Yumei se mit à parler. N'est-il pas vrai que cette vie est un mystère qui dépasse notre entendement? Nous étions dans la nuit la plus obscure où tout nous était refusé. Un destin aveugle nous guidait, sans que nous sachions pourquoi nous marchions, ni où nous allions. Voici qu'une nuit lumineuse s'offre ici où tout nous est donné. Je suis là, tu es là, nous sommes là, rien n'est donc perdu, tout est retrouvé. Oui, nous nous retrouvons, et cette fois-ci, nous ne nous perdrons plus, n'est-ce pas? À cette question, tout mon être ne fut qu'un immense « oui », tant ces paroles étaient celles que je voulais entendre ou que j'aurais voulu prononcer moi-même. Je fus à ce point ému qu'aucun son ne sortit de ma gorge, mais le mouvement d'acquiescement de mon corps était bien plus éloquent. L'amante continua. À Chungking, me trouvant seul, j'ai touché le fond du délaissement et du désespoir. Je me suis engagé dans un petit théâtre pour chanter de petits rôles. Dans la nuit, pour ne pas sombrer totalement, je parlais au personnage que j'interprétais, personnage dont le sort était semblable au mien. Un jour, Monsieur L est passé et m'a remarqué. Il m'a fait confiance, bien que je n'aie aucune vraie formation professionnelle. Petit à petit, grâce à la patience et à l'enthousiasme de tous les membres de sa troupe, je me suis formé et j'ai trouvé une plénitude dans cette forme d'art. J'ai perdu ma famille, tu le sais. Dans cette troupe, je suis entré dans une nouvelle famille. Avoir une vraie famille est une chance pour chacun. On est au sein d'une serre chaude et on ne se sent jamais seul. Seulement, une famille est composée de personnes du même clan, les siens. Et l'on sait que l'on ne peut pas éternellement vivre parmi les siens. Une profonde nostalgie me hante. Je sais au fond de moi-même que je suis sollicité par quelque chose d'autre. Non, par quelqu'un qui vient d'ailleurs. Un jour, j'ai eu la claire conscience que ce quelqu'un d'autre n'est autre que toi, Tiani. Qui es-tu? Un ange tombé du ciel? Un être né du même sol originel que le mien? En tout cas, un être infiniment moi-même et infiniment autre. Et surtout, tu es apparu à ce moment de ma vie, dans mon domaine familial, avec ton visage, ton regard, ta voix, ta sensibilité, qui ne ressemblait à aucune personne de ma connaissance. Une alliance était nouée entre nous, une alliance de sang que tous deux nous sentions et que nous étions incapables d'expliquer à nous-mêmes, et encore moins à quelqu'un d'autre. J'éprouvais un besoin impérieux de t'appeler. J'écris à tout hasard à ta mère, sans être aucunement sûr que la lettre parvienne à destination. Par miracle, tu as entendu l'appel, et tu es venu avec Aolang. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de nous. Mais je sais qu'entre nous, cette alliance née à un moment décisif de nos deux vies est désormais scellée. Elle ne pouvait plus continuer. Mais elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Ces paroles qui ne pouvaient être dites à aucun autre moment que cette nuit devant ce lac. Comme délivrée d'un aveu, elle parut soudain apaisée. Dans la clarté qui filtrait entre les branches, l'instant se cristallisa en une pièce de jade sur laquelle scintilla une traînée de rosée.
Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles. Le monde s'est dédoublé. J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide. Le monde s'est dédoublé. J'ai accueilli un ami qui m'a pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares, t'éclaire de ses phares. Ce matin, il est arrivé une chose bien étrange. Le monde s'est dédoublé. J'ai senti le temps se fondre un instant sur les visages mêmes. Le monde s'est dédoublé. Vos corps que je percevais hier encore dans leur exactitude ont perdu leur densité. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu azur qui lui vient toujours en ami te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares.
Résonance. Ce livre, le dit de Tiani, résonne bizarrement pour moi avec une œuvre antérieure, puisqu'elle date de 1962 et qu'elle est cinématographique. Peut-être que certains lecteurs du roman de François Tcheng y verront la même correspondance, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un autre trio, une histoire d'amour et d'amitié. En effet, pour moi, il s'agit du film de François Truffaut, Jules et Jim.
Jeanne Moreau, Oscar Werner, Henri Serre, Marie Dubois, Vanna Urbino, Bassiac, La petite Sabine, un film tendre et cruel inattendu comme la vie.
Tu crois que Jim m'aime? Oh, Julie. Moi aussi, je t'aime.
Jim, aimez-la, épousez-la et laissez-moi la voir.
On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail.
Sorti donc en 1962, ce film obtiendra la même année le Grand Prix de l'Académie du cinéma et le prix de la mise en scène au Festival de Mar del Plata. J'aurais certes pu choisir le roman à l'origine du film éponyme, car n'oublions pas son auteur, Henri-Pierre Rocher, dont le livre a été publié en 1953 et qui était largement autobiographique. Mais si j'aime particulièrement le film de Truffaut, je n'ai malheureusement pas lu l'œuvre originelle. Ceci dit, Truffaut a laissé une place à Henri-Pierre Rocher dans son film avec des passages du livre que l'on peut entendre car ils sont lus en voix off par l'acteur français Michel Subor. Si la musique du film était de Georges Delerue, la chanson inoubliable de ce film que nous avons tous en tête, Le tourbillon de la vie, nous la devons, elle, à Serge Rezvani, chanson devenue aussi célèbre que le film, grâce à la très belle interprétation de Jeanne Moreau. Une citation de François Cheng, extraite de son ouvrage « Cinq méditations sur la beauté ». Chaque artiste, en somme, devrait accomplir la mission enseignée par Dante, explorer à la fois l'enfer et le paradis. De l'importance du sol. Lors de notre dernier rendez-vous, je vous avais promis de parler d'agroforesterie. Mais avant de l'évoquer, il m'a paru essentiel d'aborder en amont le thème de l'agroécologie. En effet, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas très longtemps, d'écouter sur le sujet Conrad Schreiber, et son intervention m'a vivement intéressée. Pour résumer sa pensée, le sol vivant peut limiter considérablement les problèmes environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Conrad Schreiber est un ancien éleveur, devenu agronome, qui, avec d'autres collègues, forme et conseille les agriculteurs sur l'agroécologie, plus précisément l'agroécologie des sols vivants. L'agroécologie, c'est une agriculture qui étudie et utilise le sol agricole comme une maison hébergeant une grande quantité d'êtres vivants capables de faire pousser les plantes toutes seules. En effet, 65% de la biodiversité réside dans le sol et on sait reconstruire cette biodiversité. Selon Conrad Schreiber, nous avons le modèle. Il suffit de le mettre en œuvre avec les agriculteurs, mais sans les pesticides, sans travailler le sol. Un exemple, on sème avec le blé de l'amarante et du chénopode. Autrement dit, on applique les méthodes de la permaculture dont on parle pour les jardiniers. Alors, si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter le site Vers de Terre Production, notamment les vidéos YouTube mises à disposition. Et si vous en avez l'occasion, je vous invite également à visionner un documentaire illustrant parfaitement le bien fondé de ces méthodes. Il s'agit de Mission Régénération de Joshua Tickel et Rebecca Harel Tickel. Vous y découvrirez les résultats obtenus par l'association américaine Kiss the Ground qui, depuis 2013, milite pour une agriculture régénératrice, sensibilise sur l'importance des sols vivants et accompagne les agriculteurs dans ses démarches. Et comme le dit Conrad Schreiber, en matière de végétal, c'est l'arbre qui trône en patron. Alors, on en reparlera. À bon entendeur, salut. Merci à Antoine pour sa contribution et rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Millefeuille revisité, toujours sur l'autre radio.